One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, amis auditeurs, bonjour, nous sommes le 9 mars 2012 et l'échéance se rapproche. Salut Ghislain, salut Ariane, on parle des élections présidentielles.
Moi, je préférerais que tu parles de mon anniversaire, mais bon, c'est pas grave.
C'est quand ton anniversaire?
Le 13 mars.
Non, rajoute 10 jours.
Le 23?
Oui, vive les 23.
D'accord, bien, bah, 23. On te souhaitera le 23. On sera pas en direct, mais on tâchera d'y penser.
Merci.
Élection présidentielle, donc on a décidé de faire un mois spécial élection. La semaine dernière, on a parlé de tout ce qui pouvait nous choquer sans en faire le tour dans la campagne électorale, enfin ce début de campagne. Et aujourd'hui, on parle d'un truc qui nous choque aussi un peu, hein,
ouais, parfois. Mais qui nous choque beaucoup.
Même qui nous choque beaucoup. C'est le traitement médiatique de la campagne présidentielle.
Et législative.
Et législative. Et bah, je ne sais pas en quoi ça te choque, Ghislain.
On ne sait même pas par où commencer, tu sais. Heureusement qu'on a travaillé un ordre avant de commencer.
J'étais en train de réfléchir à l'ordre pour essayer d'être cohérent.
Alors,
mais...
pour commencer et lancer l'émission, moi je vous propose qu'on lance un premier son. Puisque, alors c'est un truc qui est peut-être plus dans les salles, on va parler d'un film. C'est un film qui est sorti, qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde » de Serge Halimi, suite à un bouquin qu'il avait fait dans les années 95, qui est ressorti, je crois, au début des années 2000. Et oui, je vais te donner le numéro du son, Tao, comme ça tu vas nous le lancer derrière. C'est le numéro 15, tu as repéré, c'est parfait. Et c'est la bande-annonce, tout simplement, du film qui était dans les salles en début janvier. Il n'est peut-être plus visible en salle, mais en tous les cas, il faut absolument se le procurer parce qu'il pose très très bien le problème qu'on veut évoquer aujourd'hui.
Entre autres.
À savoir la collusion des mondes politiques, médiatiques et industriels. En France, peut-être encore plus que par ailleurs dans le monde. On écoute.
Quand on a commencé, il y avait deux chaînes. Oui. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Quand on a commencé, il y avait trois radios qui comptaient. Maintenant, il y en a des centaines. Donc, rien ne peut plus être dissimulé. Pas parce que les politiques sont plus vertueux, pas parce que les journalistes sont plus malins, mais parce que la concurrence l'a imposé.
Assez !
Pour les journalistes, il y a deux manières de ne pas remettre en cause le pouvoir qu'exercent les propriétaires des médias. Ils peuvent le nier, tout simplement, ou bien affirmer qu'il est normal, voire naturel, que ce pouvoir s'exerce.
C'est pas trop douloureux, docteur.
Non, ça va.
C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie, et les troisièmes journalisme. C'est un seul et même monde. C'est un monde unique.
Ça me paraît antique. Antique ou soviétique.
La crise financière est a priori passée.
Et l'économie mondiale est plutôt bien gérée.
Il y a une constance dans l'erreur qui est accompagnée d'une constance similaire dans l'indulgence.
Il y a des vrais pouvoirs. Les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital.
Il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers liés à de très gros intérêts médiatiques sont en liaison intime avec l'État.
Ce sont donc ces chefferies éditoriales des gardiens parfaitement lisibles de l'ordre social existant.
Le système jette, rejette tout ce qu'il ne peut pas récupérer.
vous ne restez jamais à l'antenne impunément.
Notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias.
Alors, on peut pas dire que le film ait bénéficié d'une campagne de pub absolument phénoménale. On comprendra pourquoi.
Bah, sur certains réseaux, hein. C'est assez bien.
Oui, sur certains réseaux, ouais. on est d'accord. Donc, mais il faut le voir. Et voilà, la presse est-elle, la presse, les médias sont-elles des contre-pouvoirs? Ben, le film répond à la question. Et en contre-exemple. On va peut-être tout de suite parler, par exemple, du est-ce qu'il faut
non,
révéler,
je dis rien.
Mais tu nous as préparé un son.
Ah oui, on va écouter un super son.
On va écouter un super son, un second son pour cette émission.
Ouais.
Édifiant.
Ouais. La déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, c'est imminent.
Exactement, cher Bruce, la plupart des quotidiens s'y intéressent. Alors moi, une fois n'est pas coutume, j'ai senti que la candidature présidentielle se rapprochait à grands pas, non pas par les journaux, mais par un tract UMP. Les militants de tous bords hein, sont de plus en plus nombreux à en distribuer. Et c'est vrai que moi, j'étais resté au tract de 2007, une simple feuille de papier glacé qu'on vous donne à la sortie des transports en commun. Et là, pour 2012, les choses ont bien changé. Maintenant, les tracts de l'UMP s'étale sur plusieurs pages avec de la pub, des photos, puis en plus ce sont des tracts payants. Alors je m'adresse aux dirigeants de l'UMP, faire payer des tracts, déjà que les gens ne les lisent pas, mais si en plus il faut l'acheter 1,50€ et dans un kiosque. Ah non, pardon, c'est le Figaro. Oh, la boulette.
Oh non.
Mais ça va pas.
Ah, heureusement qu'on n'est pas en direct. Alors, pardon, monsieur Moujotte, hein, ça ne se reproduira plus.
Alors, tu nous as récupéré ça où, Gisela? En fait, c'est extrait de quoi?
La matinale de Repin, en fait, c'est Jérôme Commandeur qui a fait ça.
D'accord. Mmh. Ouais, excellent.
C'est excellent. Et je trouve que ça, voilà quoi, ça introduit bien toute cette collusion et toute cette polémique autour de la pétition qu'a envoyé la rédaction du Figaro à Étienne Moujotte en disant que peut-être ça serait bien qu'il traite l'information de façon tout petit peu plus objective, on va dire.
Est-ce que ça a produit ses effets?
Oh ben non, Moujotte.
Tu lis le Figaro, t'as les vérifier, je sais pas.
Non, mais de toute façon...
Je te tape avec si j'en trouve un chez toi, fais gaffe.
Non, mais de toute façon, Moujotte, il a dit n'importe quoi. On a un journal de droite, ceux qui sont pas contents, ils vont travailler à Libé.
Oui.
Voilà, c'était ça leur réponse. Mais voilà, et c'est vrai que depuis quelque temps, les éditos de Moujotte, c'était les tracts de l'UMP, quoi. C'était voilà, on parlait de Carla Bruni la semaine dernière, qui trouve que son mari est formidable, a des idées fabuleuses et tout ça.
Et qu'il a tout bien fait.
Voilà. Et ben Étienne Moujotte.
Mais elle dit qu'elle s'y connaît pas trop quand même. Mais il a tout bien fait.
Ben Étienne Moujotte, il dit qu'il s'y connaît et que Sarkozy, il a des idées fabuleuses et qu'il a tout bien fait. Voilà.
Ariane, je te sens dépérir là.
Non mais en plus, il faut le dire, tu m'as soumis à la torture, Philippe.
Je t'ai soumis à la torture
en te faisant
faire le petit exercice que je t'ai demandé
voilà.
Pour cette
du coup, j'ai de temps en temps un petit plomb qui a sauté.
D'accord, oui.
Et
ce que je t'ai demandé...
habituel ou celui de Ghislain s'est infiltré. Dans
oui,
le
mais
son.
Tu n'étais pas devant ta télé le soir où Sarkozy s'est déclaré candidat. Non, je me suis dit, il fallait toiler une petite session de rattrapage. Donc je t'ai demandé d'écouter en fait cette formidable déclaration avec cette formidable interlocutrice qui était Laurence Ferrari pour que tu nous fasses un petit digest de tout ça et qu'on
c'était
se rende
très
compte
indigeste en effet
qu'on se rende compte à quel point elle était percutante ce soir-là, Laurence Ferrari.
Bien sûr.
Voilà, on écoute.
Oui.
Alors bonsoir monsieur le président.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de TF1 ce soir.
Des bisous.
Nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle. Avez-vous décidé de vous présenter et donc de briguer un second mandat auprès des Français?
Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.
Depuis quand avez-vous pris cette décision?
Depuis plusieurs semaines.
Pourquoi l'avez-vous prise?
Je l'ai prise parce que la situation aujourd'hui de la France, de l'Europe et du monde, qui connaît depuis 3 ans une crise absolument sans précédent, je devrais dire une succession de crises sans précédent, fait que ne pas solliciter à nouveau la confiance des Français.
Tu parles bla bla bla, bla bla bla.
Qu'avez-vous de nouveau à proposer que vous n'avez pas déjà proposé depuis 5 ans?
Mais vous savez, pendant 5 ans, on m'a dit « Ah, il y a trop de réformes, il y a trop de choses ». Et maintenant, je vois que on me dit « Ah, il faudrait tout ce que vous n'avez pas fait pendant les 5 ans, vous ne pouvez pas en parler pour les 5 ans qui viennent ».
Tu parles bla bla bla, bla bla bla.
C'est que la France ne peut pas rester à l'écart de la course du monde. La France ne peut pas faire comme si la crise n'existait pas, comme si l'Europe n'existait pas, comme si le monde n'existait pas.
Tu parles bla bla bla, bla bla bla.
Nous devons continuer à faire les changements. Alors, on en a fait l'autonomie des universités, la réforme des retraites, ce que nous avons fait pour alléger les charges des entreprises, ce que nous faisons pour améliorer la compétitivité de nos entreprises.
Tu parles bla bla bla, bla bla bla.
Mais pourquoi n'avez-vous pas ça fait avant passer... C'est ça qu'ils se demandent, les
mais
Français.
Vous savez, d'abord, on en a beaucoup fait, puisque je pense que ce que nous avons fait, ça a fait le sujet de tous les 20 heures que vous avez présentées. Mm-hmm. Mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire en 5 ans. Et par ailleurs, nous avons connu depuis 3 ans une succession de crises, d'une violence inouïe, sans doute inconnue depuis la Seconde Guerre mondiale, qui nous ont amenés à gérer les crises et en même temps à faire les changements.
Tu parles bla bla bla, bla bla bla.
C'est quand même le rôle du président de la République et du gouvernement de régler les problèmes. On va pas me critiquer aussi quand je règle les problèmes.
Ça fait du bien quand il s'arrête quand même. Hein. Donc voilà comment il répond quand elle s'oppose à nouveau à lui. Mais quand même, pourquoi vous l'avez pas fait avant et pourquoi vous le feriez maintenant et... Ah non, mais vous allez pas m'attaquer quand même. Donc quand même, elle était avec, dans une attitude avec une... on va dire déférence pour faire des euphémismes.
Oui.
Et ben quand même, il a trouvé qu'elle l'agressait.
Une petite pause musicale, on va se remettre de tout ça et on revient en plateau après. Tu nous balances la 9 Tao. Pause musicale.
I'm a pad imitator of a boy in the sky, with a cap in his head and a knot in his tie. I'm the light in the mile when the power is gone, the shadow in the corner just playing along. I'm only red in my beard, I'm rolling aside, but if I get a car, I'm roaming the ride. Because I know if I ever tell a living to you, you got a volunteer and you don't know what to do, you sigh.
You ain't Willie D, you ain't Bushwick, you ain't killing me. Better play with your mo.
mom, bitch, go mama. Bet you still stay with your mom, bitch, go mama. Keep sleeping on my, I'ma rock my pajamas. In the daytime, I swear, I promise. Dad's sick, they something tear, I take my face off. How come blacks don't play baseball? Y'all right, no, y'all can taste all this fly-ish. I stay finna take off. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Mean fresh squeeze juice, you that tang. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Wait, you really slick, quick, no, you dang a dang. Better up, header up, lava language and the vocal volcanic. Yeah. If it ain't fixed, don't broke it, don't panic. Yeah. If it ain't this, it ain't shite, it's shamming. Yeah. If it ain't this, it ain't dope, it don't flush. And if it ain't hip, it don't hop, it ain't hush. Man, they sound like, man, they stole your man, they look like, no, but ain't us. I do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Get your riddle slick, quick, no, you dang a dang. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. You fresh squeeze juice, you can do that thing.
Et donc ça, c'était Gorillaz. Et oui, ils existent encore, Ghislain. Tu savais pas?
Tu réponds à ma question d'il y a 10 minutes, je l'ai déjà oublié.
il est pas blond, il a juste des allergies.
Ah oui, c'est ça.
Et les blondes sont très intelligentes, souvent.
Oh.
C'est pas, alors, je sais pas comment je dois le prendre. Il est pas blonde parce que les blondes sont souvent très intelligentes. Merci.
Non, j'ai pas
merci,
dit parce que ça.
Ça suffit.
J'ai dit un truc blondophobe et je me rattrape après.
Ouais,
d'abord.
Rattrape-toi.
Voilà, j'ai dit que c'était les allergies, m'embête pas, Ghislain, qu'est-ce qu'il y a ? Je fais des blagues aussi que toi après t'avoir vu, alors j'ai rien à dire.
Amis auditeurs, on recentre les débats, tu écoutes SLP, salut les PD, deuxième émission de mars et on fait un mois sur la campagne électorale, les campagnes électorales présidentielles, législatives et le traitement journalistique qu'en font les médias. Pour ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, alors tu as préparé donc le son sur... Laurence Ferrari, Nicolas Sarkozy, le précédent, celui qu'on a entendu juste avant la pause musicale. Et tu as préparé autre chose, je crois.
Non, en fait...
Tu as fait travailler
Ghislain. On s'est fait tourner,
voilà.
En fait, tu vois.
Oui, c'est ça. Chacun a demandé à l'autre de préparer des sons.
C'est trop mignon.
Sauf que moi, je lui ai envoyé un truc super sympa.
Ouais. C'est-à-dire, tu lui as envoyé quoi, Ghislain?
Ben, vas-y, Ghislain.
Un extrait de là-bas, si j'y suis.
Voilà.
Voilà.
Émission
du
de
début
de
février
mai,
sur
ouais.
France Inter.
Et donc au début février, il y a eu une fiction futuriste.
Une fiction futuriste.
Bah oui, on se projetait au soir du deuxième tour et c'est un mouvement sorti du bois tardivement qui était élu, le MIRAC, mouvement indépendant pour une réelle alternative citoyenne.
Et mouvement sorti du bois, tu
oui, parce qu'ils racontaient, voilà, ils sont... La fiction racontait...
C'est initié par Desca, sorti du bois de Boulogne.
Donc, la fiction prenait en compte le temps présent au moment de l'enregistrement des émissions. Mm-hmm. Et du coup, voilà, actuellement, ce mouvement n'est pas encore... n'existe pas, à part dans cet espace fictionnel radiophonique.
D'accord.
Et sur un blog sur lequel je suis allée faire oui, je soutiens le MIRAC s'ils le font, franchement, parce que voilà, ils avaient un gouvernement de 18 personnes et ils ont visité pas mal de gouvernements pour dire bah voilà ce qu'on met en place de façon très opérationnelle.
Ok.
Et donc l'extrait là, c'est sur tout ce qui est l'éthique de langage, les 12 euphémismes, les oxymores, ce genre de
choses. Donc c'est un peu ce qu'on a évoqué la semaine dernière, c'est que il y a des éléments de langage qui sont fabriqués, marketés et qui passent dans la société ordinaire, voilà, qui est pas versée dans le marketing et communication commerciale, et ça vide la langue de son sens.
De son sens. On écoute.
Voilà. Ouais.
Vous savez qu'ils avaient été jusqu'à supprimer l'échec scolaire récemment. Il n'y avait plus d'échec scolaire, il y avait de la réussite différée. Vous voyez, alors voilà, tout ça va être arrêté.
Est-ce qu'on garde le terme de non-comprenant?
C'est une bonne question.
Qu'il a lancé, cette sous-direction, tout un programme de révision de la langue, si j'ai bien compris.
Plus exactement, de vigilance à un certain nombre d'escroqueries. Il faut appeler de nouveau un chat, c'est le principe même de la direction des langages. Si vous voulez, quand à la télévision, la cellule de communication de l'Élysée imposait aux journalistes de parler de croissance négative au lieu de récession, on avait là un délit, comment je dirais, de manipulation intentionnelle et trompeuse du public. Je dis bien délit, parce que nous pensons qu'il y avait une intention malhonnête
et que cette intention malhonnête passait par des effets d'oxymore, des effets de langage. Hein. Quand vous appelez un licenciement collectif un plan de sauvegarde de l'emploi, je pense qu'il y a une intention de nuire, une intention malhonnête. Et donc voilà, toute cette manipulation du langage qui a été celle des années 80...
Il y a le dérecrutement aussi.
Le décrutement. Absolument.
Pour licenciement.
Il s'agit effectivement soit d'interdire l'utilisation de ces mots, soit de prévoir, je ne sais pas moi, on verra. Il ne s'agit pas de pénaliser toute la société, il s'agit de mettre fin à ça. N'importe quel journaliste doté d'un cerveau et de deux hémisphères aurait dû s'insurger contre le terme de croissance négative. Ça n'était pas le cas. J'ai entendu sur des radios publiques des journalistes parler tranquillement de croissance négative. Quelle est la manipulation? Ça, les linguistes le savent, c'est que quand vous mettez deux termes qui s'opposent, l'esprit, le cerveau retient le terme positif. Et donc la croissance négative, c'est toujours de la croissance. C'est magnifique.
C'est fou, effectivement. Comment expliquer ça? Les journalistes manquent à ce point-là de recul qu'à un moment, ils sont... À la limite, ils peuvent l'utiliser une fois, deux fois, mais c'est des termes croissance négative. Alors, décrutement, personnellement, je l'ai jamais entendu. Peut-être non, que c'est pas sorti comme d'autres expressions, mais
plan de sauvegarde de l'emploi, c'est
oui. Ouais, non, mais les effectivement, la plupart de ce qui a été évoqué, effectivement, on l'a entendu, on l'a lu, et c'est des termes qui
Gislain n'a pas évoqué parti socialiste,
dans le langage
mais
courant,
il est passé à la moulinette aussi après.
Oui, bien sûr. Non, mais ça, il n'y échappe pas. Hein. Je pense que là, les deux grands partis passent par là. On le voit systématiquement.
Non, mais c'était le terme parti socialiste qui passait
en fait,
à la
disait, en gros, il disait qu'il allait écrire au PS pour leur dire vous n'avez pas le droit de vous appeler socialiste parce qu'en fait, vous n'avez rien de socialiste.
Voilà.
Excellent.
Parce que le socialisme, c'est la propriété collective du moyen de production et que vous êtes tout à fait contre ça. Donc vous n'avez pas le droit de vous appeler socialiste. Non mais c'est intéressant. Et tout le début aussi, je l'ai gardé justement parce que ça montre que c'est pas uniquement en politique qu'on utilise ce genre de choses-là. Tu vois, il parlait d'éducation avant, voilà, et on peut juste souhaiter que Nicolas Sarkozy soit en état de réussite différée bientôt. Enfin, tu vois. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est...
Différé voilà, ou pas d'ailleurs.
C'est tellement... c'est plutôt pas réussite, mais bon, on n'a pas le droit de le dire. c'est que ça a tellement imprégné toute la façon de s'exprimer, de ce qu'on appelait la novlangue, tu vois, tous les termes négatifs. Un nain, c'était une personne de petite taille, tu vois, ce genre de choses-là. Mm-hmm. Ça a tellement imprégné que c'est peut-être pour ça que les gens, ils réagissent plus.
On est habitué à ça, et la plupart des gens... récupère aussi ces termes-là. Mais comment on explique ça? J'avoue
Alors,
que
y a
ça
deux
m'échappe.
Choses. Il y a ce qui a été évoqué en début d'émission qui est lié aux connivences et qu'on a vu aussi avec Laurence Ferrari, laisser parler celui qui vient, qui fait l'événement et qui fait l'audimat, c'est s'assurer qu'il revient. Et si ta fonction, c'est de faire que ton journal reste celui qui est le plus regardé de France et pas d'être une journaliste avec une déontologie... voilà. Mm-hmm. Bon, voilà, là, elle a bien fait son travail par rapport aux objectifs qui lui sont fixés.
Alors, c'est-à-dire mais qu'effectivement, c'est pas, elle fait plus un travail journalistique, elle fait un travail de promotion.
Speakerine.
Non, elle fait un travail marketing pour sa chaîne.
Oui.
C'est-à-dire, si c'est Sarkozy qui fait l'audimat, il faut faire en sorte que Sarkozy revienne sur ce plateau.
Donc,
parce
c'est
que quand
ça,
on
c'est
le
de
fait,
la promotion.
Elle vient pas.
Enfin, c'est de la promotion, pas forcément directement pour Sarkozy, mais en tous les cas pour sa chaîne, oui, pour qu'elle reste.
C'est voilà, on pense qu'à Médiamétrie.
En tête des écoutes.
Et il y a ça, et puis il y a aussi le côté. C'est un monde du travail comme un autre, celui de l'information. Les gens sont sous pression, pressés, etc. Et on va là où l'information est la plus vite disponible. C'est quelque chose qu'on avait évoqué dans la première émission de l'année qu'on espérait révolutionnaire, au moins l'émission, si ce n'était pas l'année, où on se disait que voilà, si tous les journalistes avaient traité des problèmes économiques presque tous de la même façon, c'est parce que quand ils ont cherché une formation pour savoir en parler, eh ben, ils sont tous allés se former là où c'était plus disponible de se faire former. Et voilà, y a la pensée unique a encore frappé. Quoi.
Voire même pire, c'est-à-dire que dans le milieu culturel, nous, on nous disait souvent, si tu veux qu'on parle de ton spectacle, si tu veux qu'il y ait un article, bah, tu envoies directement l'article.
Midi libre, bien sûr.
Tu envoies directement l'article.
T'appelles ça communiqué de presse, et si c'est repris mot pour mot, voilà. Hein. Ouais, en même temps, moi, comme ça, ma première coupure de presse, elle est super chouette. Hein.
Bah oui, non, mais voilà. Et quand j'ai vu à préparer des conférences de presse et tout ça, un copain en communication m'avait dit, en fait, tu prépares des phrases que tu vas répéter plusieurs fois, qui sont telles que celles telles que tu voudrais, que tu veux les voir reprises. Mmh. Donc tu prépares les phrases comme ça que tu répètes, les journalistes les notent et les reprennent telles quelles dans leur papier.
Sans aucune analyse, rien du tout.
Mais non, parce que c'est les phrases, voilà, t'annonces un événement, t'annonces des trucs comme ça, donc tu leur moules le travail, quoi. Mmh. Ils n'ont plus rien à faire, à part assembler des phrases.
Régurgiter, tu leur donnes la béquille, ils régurgitent, voilà.
Alors, sauf si vous avez d'autres choses à dire, mais là, je pense que c'est pas très, très compliqué à comprendre. Moi, je propose qu'on écoute un son qu'on aurait pu écouter aussi en fin de première émission. C'est un son qui date de quelques années maintenant. C'est un extrait d'Apostrophe. C'est Claude Lévi-Strauss qui est l'invité de Pivot. Et par rapport à tout ce qu'on a évoqué sur ces deux premières émissions, et la nécessité peut-être de prendre du recul, ben voilà, une façon d'en prendre, c'est d'écouter ce genre de discours.
Bon, à quoi sert l'ethnologie en général? Vous savez, c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Si on veut comprendre l'homme, on peut, à la manière du philosophe, se replier sur soi-même et essayer d'approfondir les données de la conscience. On peut essayer de regarder ce qui, dans les manifestations de la vie humaine, est le plus proche de nous, considérer notre histoire depuis ses origines gréco-romaines jusqu'au temps moderne, ou bien on peut essayer d'élargir la connaissance de l'homme pour y inclure même les sociétés les plus lointaines et qui nous paraissent les plus humbles et les plus misérables, de manière à ce que rien d'humain ne nous reste étranger.
Si je vous entends bien, l'ethnologie serait une sorte de continuation de la réflexion humaniste, sauf que vous allez chercher les sujets, les thèmes de cette réflexion dans des peuplades qu'on qualifiait il n'y a encore pas si longtemps de sauvages.
Vous avez tout à fait raison. Car en fait, ce que les hommes de la Renaissance ont entrepris, c'est-à-dire d'essayer de mieux se comprendre eux-mêmes à travers le regard sur l'homme de civilisations qui étaient des civilisations exotiques, je veux dire la Grèce et Rome, c'était une manière de mettre leur propre société en perspective, de se mettre eux-mêmes en perspective. Et puis après ce premier humanisme, il y a eu un élargissement avec le développement des moyens de communication, des grands voyages d'exploration. On a intégré le monde arabe, l'Inde, la Chine, le Japon. Et l'ethnologie représente la troisième et la dernière étape de cette entreprise humaniste qui consiste à essayer de comprendre l'homme par la totalité de ses expériences et de ses réalisations.
Ah.
Ça t'a fait du bien, Ariane?
C'est le son que je voulais à la fin de la semaine dernière.
Ouais,
on n'avait pas,
ouais, ben voilà, pas le temps, mais bon, c'était, je pense, pas mal de au moins de l'écouter sur cette seconde émission. Voilà, oui, c'est une façon de réaliser que, quel que soit le milieu auquel on appartienne, politique, médiatique, industriel ou simplement de notre petit point de vue, on a souvent le nez sur le guidon, manque de recul. Et voilà, la sagesse, ça s'acquiert aussi avec un minimum de, d'ouverture, de temps. De recul. Alors, effectivement, là, on démontre que dans cette campagne électorale, on est sans arrêt. Il n'y a pas d'analyse. Les journalistes réagissent dans l'urgence, pas forcément sur les programmes ou ce qui préoccupe véritablement, enfin, ce qui préoccupe les Français. Je ne sais même pas si c'est ce qui préoccupe les Français, mais en tous les cas, on n'est pas sur les programmes véritablement, on est sur ce qui fait polémique, c'est ça qui est mis en avant et qui masque véritablement tous les enjeux
de cette sphère de la communication campagne. Ouais. Et puis ce mot très français de storytelling. Mmh.
On y reviendra, puisqu'il reste deux émissions à faire sur ces deux campagnes électorales qui se déroulent sous nos yeux. On se retrouve la semaine prochaine.
Chiche.
Au revoir.
Au revoir.